Radio Kapi.
Merci d'écouter Radio Kapi, il est 18h à Kinshasa, voici un nouveau journal. Des Kinois ont eu de la peine à se déplacer ce lundi en cause. Les stations en service ne vendaient pas du carburant. Une réunion s'est tenue aujourd'hui entre les pétroliers et le ministre des hydrocarbures pour trouver une solution. 13 civils tués et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan d'une nouvelle attaque des rebelles ougandais de l'EDF cette nuit à Masambo au Nord Kivu. Notre invité, c'est le coordonnateur du conseil scientifique de l'assurance qualité au ministère de l'ESU. Le professeur Ildefonso Chimanya parle de l'atelier organisé à l'université de Kindu sur le système LMD. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. Au micro, Pascal Masserika, mise en onde de Polydor Basunga. Difficile de s'approvisionner en carburant, particulièrement en essence, depuis le week-end dernier, dans la ville de Kinshasa, plusieurs stations-service ne vendent pas ou alors uniquement du mazout. Suite à cette difficulté, une réunion s'est tenue aujourd'hui entre quelques pétroliers et le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbou aujourd'hui. Le compte-rendu de Jean-Francis Mouya.
La difficulté d'approvisionnement en carburant au sein des stations-service est une situation très inquiétante pour les conducteurs ainsi que les usagers de la route à Kinshasa. C'est notamment le cas à Bandalungwa dans une station où un taximen trouvé sur place exprime son ras-le-bol.
Depuis hier, nous ne travaillons pas. Je suis entré dans une station à 15h pour en ressortir à 17h. On est même obligé d'ajouter 1000 francs sur le montant à payer lorsqu'on doit acheter du carburant. Si tu ne rajoutes pas 1000 francs pour le pompiste, tu ne seras pas servi. S'il n'y a pas une solution d'ici demain, nous n'allons pas travailler.
Afin de taire toute rumeur sur une éventuelle pénurie, le directeur général de la société pétrolière SEP Congo éclaire l'opinion et dément toute information allant dans ce sens. C'était à l'issue d'une réunion tenue ce lundi 4 avril entre quelques pétroliers ainsi que le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbou.
Il n'y a pas de pénurie, en tout cas pas aujourd'hui, parce que nous avons suffisamment de produits pour livrer le marché. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les stocks étaient très bas et donc les clients se sont précipités sur les points de vente. Il y en a qui ont fait du stock et donc ça atterrit les stocks dans les stations. Mais ce problème-là, il est un peu dépassé.
Il s'est de noter qu'aucune hausse de prix n'a été déclarée par les autorités pour les différents produits pétroliers.
Inauguration le week-end dernier d'une nouvelle aérogare à l'aéroport de Nyunzu dans la province du Tanganyika. L'ouvrage a été remis à l'autorité locale par le coordonnateur de la fondation qui porte son nom. Le député national Emmanuel Mukundi affirme à Radio Kapi que ce bâtiment a coûté plus de 30 millions de francs congolais tirés de ses émoluments. Il le dit à Alain Rongomouchiche.
La construction de l'aérogare de Nyunzu entre dans nos promesses que nous avons faites à notre population, bien qu'il n'appartient pas aux députés de pouvoir construire, c'est un devoir du gouvernement, mais puisque la population est abandonnée, nous avons promis de réaliser beaucoup d'autres projets. Chez nous, il n'y a pas de grands avions qui descendent, ce sont des avions qui prennent 7, 8, 10 personnes, mais au moins nous avons prévu déjà pour plus de 20 passagers dans la salle d'attente avec les bureaux de tous les services d'ordre opérationnel à la frontière. Ça fait un bonheur de plus, parce qu'avant cela, nous avons eu à construire en 2000, nous avons construit un marché d'une capacité de 160 personnes dans le village de Kisengo. En 2021, nous avons construit un autre marché dans le village de Luizi, de la même capacité. Et à la fin de l'année 2021, nous avons construit un centre de santé, je crois, qui a une capacité de 10 à 14 lits et aussi avec plusieurs services. Les 34 millions de francs congolais que j'ai utilisés pour construire, ce sont mes économies que je réalise et qui fait que je puisse aider cette population qui a vraiment besoin d'être soulagée.
Autre nouvelle, 7 passagers tués et plusieurs autres grièvement blessés, c'est le bilan du déraillement d'un train marchandise de la SNCC qui partait hier dimanche de Tenke au Lualaba pour Luena. L'administrateur du territoire affirme que les causes du drame ne sont pas encore connues par la SNCC. À Lubumbashi, Jean Gandou.
C'est ce dimanche, aux environs de 19h, que le déraillement s'est produit à Bouyofoué, localité située à 25 km de Louboudi Centre. D'après l'administrateur du territoire de Louboudi, Clémentine Matanda, le bilan provisoire est de 7 morts et de 14 blessés. 5 d'entre les blessés sont internés dans un centre de santé de Bouyofoué. Une équipe de médecins a déjà quitté Louboudi Centre et se dirige vers le lieu de l'accident. D'après l'autorité territoriale de Louboudi, l'état défectueux de la route ne permet pas de transporter les malades jusqu'à Louboudi Centre ou à l'UENA. Ainsi, elle envisage de prendre langue avec les responsables de la SNCC pour voir si ces blessés peuvent être pris dans le train et amenés soit à l'UENA ou à Louboudi pour leur prise en charge. Notons que cet accident ferroviaire est le deuxième en l'espace d'un mois dans le territoire de Louboudi. Le premier, qui s'était produit le mois dernier au village Kitenta, avait causé la mort de 73 personnes et les blessés étaient au nombre de 128. Tous nos efforts pour avoir les autorités de la SNCC en vue de connaître les causes de ce déraillement n'ont pas abouti. Toutefois, lors du premier accident, la SNCC avait indiqué que ceux qui étaient à bord des wagons étaient des clandestins car ils ne devraient pas se retrouver sur un train marchandise. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre région, autre drame. 13 civils tués et d'importants dégâts matériels, bilan provisoire dressé par la société civile locale d'une nouvelle attaque des rebelles ougandais de l'ADF cette nuit au village de Masambo, groupement de Basongora, dans le secteur de Rouenzori au Nord Kivu. Le récit d'André Kitenge.
C'est vers 22h que les assaillants, identifiés comme des ADF, ont attaqué le village Masambo, une dizaine de kilomètres du poste frontalier de Kassindi. Selon le président de la nouvelle société civile congolaise du secteur Rwenzori, 13 civils ont été tués lors de cette attaque et plusieurs autres portés disparus, dont des enfants. Mele Kimulala, qui parle de bilan encore provisoire, indique que les assaillants ont également incendié une dizaine de maisons et pillé des biens de la population, notamment des médicaments dans une pharmacie. Cette situation a causé le déplacement des populations vers des zones jugées plus sécures. Contacté, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, le capitaine Anthony Mwalushai, souligne qu'il réagira incessamment sur cette attaque. Pour l'instant, un calme relatif est observé dans la région, indique notre source. Rappelons que dans la nuit de samedi à dimanche, deux autres civils, un homme et une femme, ont été tués et quatre enfants pris en otage par des hommes armés dans le village Kikingi, toujours dans le secteur de Rwenzori. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation prend de plus en plus forme avec l'adoption ce lundi à Kinshasa du plan stratégique national de sa mise en œuvre. C'était au cours d'une importante réunion du comité de pilotage autour du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Divers partenaires nationaux et internationaux et barres de fonds ont présenté leur vision, leur approche et garantie pour soutenir ce processus, gage d'une stabilisation et de la pacification de la partie est de la RDC. Explication de Billy Valutumba.
Ce plan stratégique national, l'explique Tommy Tambwe, coordinateur du PDDRCS, constitue la feuille de route pour l'opérationnalisation du programme. À travers lui, la visée est de parvenir à un relèvement communautaire, la relance économique, la cohésion sociale et la stabilisation de toute la partie est de la RDC. Au président de la République et président du comité de pilotage d'insister sur le mode de gestion de la stratégie nationale validée ce jour.
La stratégie nationale fait de la décentralisation, la responsabilisation, la transparence et la redevabilité les principes sacro-saints de son mode de gestion. Le choix de ces principes répond, outre à la devise de travail du PDDRCS, à savoir pour la communauté, avec la communauté, dans la communauté et par la communauté.
Pour la matérialisation de ce PDDRCS, l'Union européenne, l'Union africaine, la Grande-Bretagne, la Chine, le Japon, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ont unanimement garanti leur soutien pour le bien-être des communautés longtemps meurtries.
Merci Billy Valutumba pour ces précisions. Pour sa part, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC recommande la prudence et l'attention quant aux candidats éligibles à ce programme. Madame Bintou Keïta promet également la disponibilité des Nations Unies à soutenir le gouvernement congolais dans la matérialisation de ce programme. On l'écoute dans ses propos recueillis par Billy Valutumba.
Les attentes des communautés sont grandes et le PDD RCS a fait naître des espoirs de paix. Et je lance vraiment un appel du cœur pour que les espoirs de paix ne se transforment pas en désespoir. Il est très important de faire la distinction entre les individus qui sont prêts à se rendre apprendre à renoncer à la violence et à intégrer une vie civile. Et ceux qui continuent de s'inscrire dans la violence contre l'État et contre les communautés. Les combattants capturés ne peuvent pas être éligibles au PDDRCS. Et on veut vraiment insister sur cet aspect parce qu'au fond, ce dont on a besoin, c'est un processus volontaire. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut mettre de côté ceux qui sont les combattants capturés, ni de les oublier. Mais nous pensons que c'est important que les combattants capturés doivent suivre des parcours différents afin de renforcer justement ce qui est central, c'est les objectifs stratégiques de stabilisation. En tant que Nations Unies, nous sommes prêts à appuyer le gouvernement à développer ses capacités pour traiter des cas spécifiques selon les normes juridiques nationales et internationales.
Politique à présent, la CENI a publié le week-end dernier les noms des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs pour les 13 provinces de la RDC. Cette liste provisoire des 102 candidatures sera affichée au secrétariat exécutif provincial de cette institution d'appui à la démocratie. D'ores et déjà, quelques voix s'élèvent pour dénoncer l'écartement de certaines candidatures. C'est ce que nous dit Mboujimaï Esther Ndalafina.
Les 102 candidatures au poste de gouverneur dans les 13 provinces concernées par l'élection ont été publiées ce samedi par la Commission électorale nationale indépendante CENI. La province de l'Ituri, qui attendait aussi connaître ses candidats à cette élection, n'a pas été retenue suite à l'état de siège qui y a été instauré par le gouvernement congolais depuis le 3 mai et prorogé jusqu'à ce jour. Cette publication ouvre la voie à la période de contentieux de candidatures selon la loi électorale. À cet effet, le calendrier réaménagé de la CENI prévoit de ce lundi 4 au 5 avril le dépôt des recours en contestation des listes provisoires devant les cours administratives d'appel. Le traitement des contentieux aura lieu du 6 au 12 avril, tandis que du 13 au 17 avril, les cours administratives enverront des notifications des arrêts à la Commission électorale nationale indépendante. La publication de la liste définitive intervient le 21 avril. Deux jours de campagne sont prévus du 2 au 4 mai prochain et le vote proprement dit, des gouverneurs et vice-gouverneurs par les députés provinciaux, suivi de l'annonce des résultats par la CENI, intervient le 6 mai prochain.
Sachez également que cette publication par la CENI ouvre la voie à la période de contentieux relatif à la validité d'une candidature et à la régularité d'une liste de candidatures. Quelles sont les causes conduisant au rejet de la candidature devant la CENI? Élément de réponse avec vous, Esther Ndalafina.
Selon la loi électorale, une candidature est irrécevable lorsque le candidat n'est pas éligible. Lorsqu'il n'a pas de nationalité, le candidat voit aussi sa candidature débarquer de la course lorsqu'il n'a pas signé la lettre de consentement conforme au modèle exigé par la CENI. Lorsque la candidature est présentée en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales pour le même scrutin, ou lorsqu'elle est présentée sur plus d'une liste dans une même circonscription électorale. La candidature peut être aussi rejetée lorsque le candidat n'a pas versé le cautionnement électoral exigé ou figure sur une liste dont le cautionnement électoral n'a pas été versé. Dans un délai de 4 jours suivant la publication, pour l'élection de gouverneur et vice-gouverneur, la liste provisoire peut être contestée devant la cour administrative d'appel par le candidat dont l'éligibilité est contestée, par le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou une liste dans la circonscription électorale et aussi par tout candidat se présentant individuellement dans la circonscription électorale ou son mandataire.
Actualité internationale.
Au 40e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce lundi, c'est l'indignation totale qui domine après la découverte des scènes laissant penser à des crimes de guerre dans les zones qui ont été libérées après le départ des forces russes près de la ville de Kiev. La Cour d'appel du Rwanda a confirmé ce lundi la condamnation à 20 ans de prison ferme pour terrorisme de l'opposant Paul Rusesabagina, rendu célèbre par le film dénommé Hôtel Rwanda, rejetant ainsi l'appel du parquet qui souhaitait une peine plus lourde. Le tribunal estime que sa peine ne doit pas être alourdie car les 20 ans qu'il a obtenus sont conformes au poids des crimes commis et le tribunal maintient sa peine.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur du Conseil national scientifique de l'Agence d'assurance qualité au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Le professeur Ildefonse Chinyama parle de l'atelier organisé à l'Université de Kindu au Maniema sous les systèmes LMD. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Professeur Chinyama Kadima Ildefonse, bonjour.
Bonjour madame.
Vous venez d'animer un séminaire de formation sur les LMD à l'Université de Kindu. Peut-on savoir qu'est-ce que ce système LMD va changer dans le fonctionnement de cette université publique de l'État?
Bon, il ne s'agit pas de changer le fonctionnement simplement de l'Université de Kindu, mais c'est une réforme qui est en cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire dans sa globalité. Et donc, il était question avec le corps scientifique, le corps académique, le corps administratif de l'Université de Kindu, de voir comment on donne certaines informations, notamment basiques, sur le fonctionnement de ce nouveau système d'enseignement qu'on appelle LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Durant les 3 jours, on devait comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de cette réforme, comment on va enseigner, comment on va délibérer, comment les étudiants vont commencer à s'en sortir dans leurs études, et éventuellement comment le comité de gestion va gérer l'institution autrement. Mais évidemment, comme je suis membre de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'ESU, j'en ai profité pour donner quelques concepts de base d'assurance qualité.
Enseigner autrement, faire les recherches et même gérer autrement. Concrètement, ça veut dire quoi?
Bon, au fait, la nouvelle réforme fonctionne avec l'approche par compétences. Et donc, l'idée, c'est de dire quelle est la pertinence de la formation qu'on donne. En fait, les programmes ne sont plus élaborés selon l'ancien système où les enseignants se mettaient ensemble et désignaient des enseignements qu'il fallait mettre. Donc, où on était centré sur la matière. Mais ici, on est vraiment centré sur les compétences à développer chez les étudiants. Et pour ça, les programmes ne s'élaborent pas n'importe comment, ça s'élabore par approche qu'on appelle approche par compétences, c'est-à-dire, mais on forme pour quel métier? Et ce métier exige quel type de compétences? Et pour réaliser ces compétences, quel est le contenu des enseignements? Et donc, à ce moment-là, on comprend effectivement que au cœur de cette forme, il y a la notion de l'employabilité. Nous voulons former vraiment des employables, mais pas simplement des employables, mais aussi des étudiants créateurs d'emplois. Mais nous n'ignorons pas non plus notre mission fondamentale de l'université qui est de produire la recherche fondamentale.
Partant des exemples, que faisaient les étudiants dans l'ancien système et qu'ils ne doivent plus faire dans cette nouvelle réforme?
Bon, maintenant, la formation n'est pas centrée sur le contenu des enseignements, mais surtout ce dont est capable l'étudiant à réaliser comme action à partir des apprentissages qui lui permet d'exercer un métier précis dans la vie. Et donc, toute la démarche commence par effectivement identifier quels sont ces métiers pour lesquels on forme l'étudiant et ces métiers exigent quel type de compétences. Et donc, ces compétences pour les réaliser, comme je l'ai dit, exigent quel type d'enseignement. Et donc, on est vraiment dans un apprentissage par compétences. L'idée, c'est vraiment de faire de l'enseignement, comment on fait pour que l'enseignement devienne un pilier du développement. Comment on fait que notre université se transforme en une usine de production de compétences qui sont recherchées sur le marché de l'emploi. C'est l'importance de cette réforme. Donc, on ne forme plus pour former. On forme selon un profil de sortie. Ce profil de sortie, c'est vraiment de macro-compétences qu'ils réalisent au travers les apprentissages pour arriver à réaliser ou exercer un métier donné. C'est pourquoi maintenant, quand on dit étudier autrement, ça veut dire effectivement qu'on inverse les statuts. C'est-à-dire, le prof n'est plus l'acteur central de l'enseignement. C'est plutôt l'étudiant lui-même qui doit être au cœur de sa formation.
Un message pour ceux-là qui doutent encore.
Non, écoutez, c'est pas la première réforme au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Il y a déjà eu autant de réformes. Et donc, chaque réforme amène son lot de résistance. Mais ce qui compte, c'est que nous puissions expliquer de manière plus ou moins claire les tenants et les aboutissants de ce système pour que la communauté universitaire, la communauté étudiantine comprenne l'importance ou la quintessence justement de cette réforme.
Professeur Chinyama Kadima, merci.
C'est à moi de vous remercier, madame.
C'était donc l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur du conseil scientifique de l'agence d'assurance qualité au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur Ildefonso Chinyama, a parlé de l'atelier organisé à l'université de Kindu sur le système LMD. Il s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Alain Rongmouchich qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelekipe Lamondo. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net.